Dans une rencontre judéo-chrétienne, le rabbin pose la question aux catholiques et lui dit la chose suivante. Comment faites-vous pour transmettre? Comment faites-vous pour transmettre? Il s'interrogeait là-dessus et dit, nous, par exemple, dans le judaïsme, nous avons un certain nombre d'interdictions alimentaires, et donc dans le cadre, pour les gens pieux, observants, dans le cadre de la famille, c'est transmis. Nous avons des liturgies familiales, vous le savez, le Shabbat se célèbre au sein même des maisons, de même la Pâque, le repas de la Pâque, qu'on appelle le Seder, est à l'intérieur même de la maison. Et donc ça inscrit une transmission, d'autant plus qu'au début même du repas de Pâques, il y a une question que pose l'enfant à table, il dit « Pourquoi cette nuit est différente d'une autre nuit ?» Et donc d'une génération à l'autre, elle se répond, elle se transmet. Mais vous les catholiques, comment vous faites pour transmettre? Et la question est bonne. La question est bonne parce que nous n'avons pas d'interdit alimentaire, nous n'avons pas d'obligation vestimentaire, rien qui puisse nous distinguer des autres. Nous n'avons pas l'obligation de porter une croix, mais Jésus nous invite à porter sa croix, mais ce n'est pas pareil que de porter une croix. Nous n'avons pas d'obligation particulière et ce qui a surpris les premiers contemporains des chrétiens, c'est qu'ils font tout comme tout le monde. Sauf dans l'Antiquité, au début du christianisme, sauf de sacrifier à l'empereur, mais en dehors de ça, ils faisaient tout comme tout le monde. Et donc, on voit des personnes, on dit, mais comment on va se distinguer des autres? On voit qu'on est moins nombreux qu'avant. La question de la foi intéresse moins. Comment d'autres s'affirment, d'autres religions nouvelles s'affirment plus fortement que nous? Parce qu'il y a des codes, il y a des interdits, il y a des obligations, et qui marquent aussi plus leur manière de pratiquer leur religion. Mais comment nous, on va transmettre? Comment ne pas être englouti dans une majorité d'incroyants qui fait qu'on n'est plus reconnaissable? Vous voyez, et on voit bien dans notre Église ce souci d'une certaine identité ou d'une recherche d'identité forte au plan des chrétiens. Eh bien, la réponse, elle est dans l'Évangile. Nous n'avons qu'un seul signe qui nous distingue des autres, c'est ce que nous dit Jésus, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » À force de l'entendre, ça nous paraît juste une évidence, parce que bon, oui, ok, mais c'est un commandement nouveau quand Jésus était là, mais aujourd'hui, 2000 ans de christianisme, c'est tellement une évidence que même, j'allais dire, des non-croyants pratique ce commandement d'aimer le prochain, de secourir la personne en fragilité, de se faire proche. Mais prenez conscience que ce commandement nouveau, appliqué à tous, était du temps de Jésus une vraie nouveauté, puisque, et même dans les premiers chrétiens, le fait de secourir la personne en difficulté était un témoignage. Le fait de s'occuper des esclaves considérés dans l'Antiquité comme des choses était un témoignage. Donc prenons conscience que ce qui a fait que le christianisme s'est développé comme une véritable traînée de poudre, c'est précisément ce commandement nouveau. Mais comment cette personne de l'aristocratie romaine, par exemple, va aller donner du soin à des indigents? Non, ça ne se fait pas chez nous. Ça ne se fait pas. Et ça ne se fait pas dans un certain nombre de sociétés. Je pense à un certain nombre de sociétés asiatiques. Vous voyez, la question, ce qu'on appelle le karma. Le karma, c'est son destin. Et Mère Teresa a eu toutes les difficultés du monde à faire comprendre que s'occuper des personnes fragiles, surtout des castes inférieures, c'était un geste de charité, non pas aller contre leur destin. Parce que justement, la culture de l'Inde n'est pas d'abord une culture chrétienne. Et là, ça résonnait comme de façon très forte. C'est le signe. C'est le seul signe que nous avons à notre disposition pour nous différencier des autres. Alors vous me direz, c'est pas facile, justement, si on veut quelque chose de plus remarquable, de plus fort, de plus visible. Est-ce que c'est pas un peu fragile? Est-ce que ce signe-là est suffisant aujourd'hui? C'est intéressant de voir que cette affirmation de Jésus du commandement nouveau de l'amour, il vient quand Judas est sorti du cénacle. C'est le début du texte. Il vient après le lavement des pieds. On est vraiment dans le contexte de la passion. Ce qui veut dire que ce commandement nouveau, il est, même s'il est connu, ce n'est pas pour ça qu'il est facile à pratiquer. Et on voit bien que notre société va tout à fait au rebours de cette affirmation du commandement nouveau, parce que précisément, on voit plutôt que l'égoïsme est au rendez-vous, le perfectionnisme, on voit que la volonté de contrôle, une certaine indifférence entre les personnes. Et là, dans notre société, la question du matériel qui est mis au premier plan. Donc, ne perdons pas de vue que, même aujourd'hui, ce commandement nouveau, il va au rebours, s'occuper des autres, prendre soin de l'autre, être attentionné, n'est pas quelque chose de spontané dans notre société. Ça ne l'a jamais été. Et c'est quelque chose qui, de ce fait-là, nous différencie. Nous ne sommes pas les seuls. C'est vrai que nous ne sommes pas les seuls à pratiquer le commandement nouveau. Et d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de pratiquants et peu de croyants. Des pratiquants non-croyants. Mais c'est aussi une bonne nouvelle de dire qu'on peut pratiquer le commandement de Jésus. Quelque part, tellement ça a réveillé dans le cœur des hommes un désir de compassion, sans forcément croire en Jésus. Alors on se dit, soit c'est un problème, soit c'est une bonne nouvelle. Des pratiquants non-croyants, on parle souvent des croyants, je suis croyant non-pratiquant, mais je crois qu'il y a beaucoup plus de pratiquants non-croyants qui vivent l'Évangile, mais qui oublient une partie, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. De certaine manière, nos sociétés ont tellement été infusées, en tout cas occidentales, hein, encore une fois, ce n'est pas la vérité partout, mais ont été tellement infusées par l'Évangile, tellement où l'Évangile a tellement été distillé, que ça paraît presque, la défense de la dignité humaine, quelque chose d'évident. Hein, et pourtant, elle continue d'être menacée dans certains aspect. Donc, juste pour vous aider à prendre conscience qu'il y a quelque chose de fragile dans la transmission de la foi en Jésus, parce que ce n'est pas par l'extériorité, comme pour d'autres religions, qui affirment plus une extériorité, une visibilité, mais c'est plus dans une intériorité. Quand tu vas prier, retire-toi dans ta chambre la plus retirée, et là prie ton Père qui est dans le secret. Et c'est là la grande force et à la fois vulnérabilité du christianisme dans la transmission. Parce que c'est d'abord l'expérience d'une présence d'amour, dans nos vies à laquelle nous sommes invités à répondre par le commandement nouveau. Et cette expérience de la présence de Dieu, on ne la fabrique pas, et vous le savez bien, vous qui avez des enfants, vous qui avez une fratrie, etc., on peut recevoir tout à fait la même éducation et ne pas du tout se positionner de la même manière par rapport au commandement nouveau, tel que Jésus l'énonce. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Ce qui veut dire que ce « comme je vous ai aimé », il veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas évident, qui n'est pas spontané, qui est de l'ordre du combat spirituel. Mais aussi, il y a quelque chose d'autre, c'est que nous croyons que chaque acte d'amour retentit dans l'éternité. Et ça, tout le monde, nous sommes les seuls à le croire. Que chaque acte d'amour retentit dans l'éternité. Chaque acte d'amour désintéressé nous précède dans le royaume. Et cette affirmation de la vie éternelle est que dès ici-bas, par la pratique du commandement nouveau, eh bien, nous, déjà, il y a quelque chose du royaume que l'on vit. Voilà ce qui fait la différence. Alors, ce n'est pas dans l'extériorité, encore une fois, c'est pas nous fait d'autres s'occupent des malades, d'autres s'occupent des personnes indigentes, des orphelins, etc., etc. Et bien souvent, les pouvoirs publics dans nos sociétés occidentales ont repris le travail de congrégations religieuses depuis des siècles, mais ils n'ont pas repris de la même manière, parce que même si extérieurement ils s'occupent, c'est l'amour de toute la personne auquel le Seigneur nous invite, jusque dans sa dimension éternelle. Et là, ça fait la différence. Là, ça fait la différence. Là, on se positionne autrement qu'une simple ONG, qui aussi fait du bien. Mais nous ne sommes pas, comme Église, une ONG. Nous faisons du bien, oui, nous avons des œuvres sociales, oui. Mais dans ces œuvres sociales, dans ce bien qui est fait, nous nous adressons à toute la personne à qui nous venons en aide, jusque dans sa destinée éternelle. Vous voyez, c'est très puissant, c'est le fait de dire que comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé, moi, Jésus, qui va vous préparer une place dans le royaume de Dieu. Et très rapidement après, c'est la crucifixion et le bon larron, Seigneur, quand tu seras dans ton royaume, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Vous voyez, donc, je trouve que cette transmission de la foi, elle se pratique par l'attention, par aussi une vraie implication dans notre société, dans la société civile, auprès des personnes en vulnérabilité, mais il faut donner plus d'explications. Il faut dire le pourquoi nous faisons les choses. Pourquoi nous faisons les choses. Et c'est là où il y a un déficit, mes amis, où il y a un déficit de parole dans les familles et dans la transmission. C'est plutôt un déficit de parole parce qu'on ne dit pas comme si ça nous semblait évident, alors que d'autres font comme nous, hein, s'occuper des malades, etc., etc. Certains, c'est même leur métier. Mais nous n'avons pas cette culture d'expliquer pourquoi. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Pourquoi nous nous réunissons chaque dimanche? Pourquoi nous sommes attentifs à collaborer à des œuvres sociales? Pourquoi nous sommes attentifs à pardonner, qui est au cœur même du christianisme? Il y a un manque de parole, il y a un déficit de parole qui explique en partie le déficit de transmission. On ne sait pas expliquer le pourquoi, qui va avoir avec la vie éternelle. Alors c'est un défi que Jésus nous lance. Il faut, c'est vrai, sortir d'une fausse pudeur, d'une pudeur mal placée parfois, pour dire pourquoi je suis ici en ce soir, et le dire dans ma famille, pourquoi est-ce qu'on vit ça en famille, dans notre famille, où on fonctionne comme ça. Le fait de dire le pourquoi, ça aide aussi à adhérer à la personne de Jésus. Alors que souvent, on est très bloqué sur le comment et peu sur le pourquoi. Frères et sœurs bien-aimés, en ce soir, le Seigneur nous invite à rentrer dans une logique de transmission, à sortir de notre zone de confort, à dire au prochain proche, et déjà de nous dire à nous-mêmes pourquoi nous faisons ce que nous faisons, pourquoi nous sommes ici ce soir. Voilà, de nous dire déjà à nous-mêmes. On sait bien, la transmission d'abord commence par une prise de conscience, et ensuite de donner une parole de vie, et une parole de vie éternelle. Amen.